Sophie, il est 22h à Beyrouth, 21h à Paris, 20h en temps universel.
Juliette Pietraszewski.
À la une de ce journal au Liban, trois jours après l'entrée en vigueur d'une trêve avec le Hezbollah, l'armée israélienne a annoncé avoir mené plusieurs frappes aériennes. Dans ce contexte incertain, de nombreux Libanais reprennent la route pour rentrer chez eux. Le récit de nos envoyés spéciaux dans un instant. En Géorgie, nouvelle manifestation ce soir et une crise politique qui perdure. Les manifestants dénoncent le tournant pro-russe et autoritaire du parti au pouvoir, le rêve géorgien. La présidente pro-européenne a déclaré ce soir qu'elle ne quitterait pas son poste tant qu'il n'y aura pas de nouvelles législatives. À suivre également, le président taïwanais en tournée dans le Pacifique. Il vient d'arriver à Hawaï, alors que Pékin voit d'un mauvais œil tout contact officiel entre Taipei et les représentants étrangers. En France, chez Decathlon, la famille Mullier se verse 1 milliard de dividendes, inacceptable selon les syndicats. Mais avant tout ça, on prend la direction de l'Espagne avec une nouvelle manifestation à Valence. Un mois après les inondations meurtrières qui ont fait 230 morts dans tout le sud du pays, la colère des habitants ne retombe pas. Ils demandent des comptes aux autorités régionales. Pauline Glaise, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez suivi cette manifestation ce soir pour RFI.
Oui, la liste des villes, le nombre de morts qui ont été enregistrés, des discours des associations et des syndicats qui ont appelé à manifester. Et enfin, une minute de silence. Voilà comment s'est achevée la manifestation il y a plus d'une heure, sans vraiment s'achever en fait, sur la place de la Virgen, qui la ligne d'arrivée du cortège. C'est désormais un peu vidé, il reste encore quelques groupes, mais les Valenciens, sinistrés ou pas, sont restés très longtemps à chanter des slogans pour demander la mission de Carlos Mazón, le président de la région. La foule scande régulièrement des assassins ou encore Mazón, pendant que tu mangeais, le peuple mourait. Référence à l'emploi du temps de Carlos Mazón le jour du drame. Il était à un déjeuner pendant une partie de l'après-midi. Autre moment symbolique, les Valenciens ont fait sonner une alarme sur leur téléphone à 20h11, l'heure précisément à laquelle l'alarme avait finalement retenti sur les téléphones dans les zones sinistrées, alors que le cours d'eau avait déjà débordé. Et si beaucoup de manifestants ont joué et jouent encore les prolongations, c'est aussi sans doute car le besoin d'extérioriser la colère se fait sentir au bout d'un mois. Parmi les autres sujets abordés pendant cette manifestation, la question des aides qui ne s'est pas encore concrétisée pour beaucoup de sinistrés et celle de la reconstruction dans un climat de défiance.
Merci pour vos précisions, Pauline Glaise, notre envoyée spéciale à Valence, en Espagne.
RFI.
Au Liban, trois jours après l'entrée en vigueur d'une trêve entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais, Israël dit avoir mené des frappes aériennes contre la milice chiite pro-iranienne dans le sud du pays aujourd'hui. L'armée israélienne évoque dans un communiqué 4 frappes, dont une visant une installation du Hezbollah avec des lance-roquettes dans la région de Saïda, la grande ville du sud du Liban. Malgré l'incertitude de la situation, de nombreux Libanais déplacés reprennent la route depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. De retour chez eux, ils découvrent l'étendue des dégâts. Nos envoyés spéciaux Nicolas Falaise et Jad El Khoury ont parcouru les routes du sud du Liban. Ils décrivent pour RFI.
Sur les routes du sud, très encombrées, on voit des matelas empilés sur les toits de certaines voitures, celles des familles de déplacés prenant le chemin du retour. Par la fenêtre ouverte flotte parfois le drapeau jaune et vert du Hezbollah. En traversant les villages du sud Liban, le regard est sans cesse happé par des amoncellements de gravats. C'est tout ce qui reste d'immeubles de plusieurs étages aplatis par les bombardements. Arrivé à Nabatieh, on y découvre un centre-ville dévasté. À pied ou au volant, les habitants ont le visage sombre lorsqu'ils constatent les dégâts, comme cette montagne de béton et de ferraille qui s'élève à la place de la mairie de la ville. Mi-octobre, le maire de Nabatieh et une partie de son équipe y ont perdu la vie. Les travaux de déblaiement commencent dans ce quartier à l'aide d'un tractopelle parfois, le plus souvent à main nue. Impossible de savoir combien de temps prendra la reconstruction. Il n'y a aujourd'hui ni eau ni électricité dans le centre-ville de Nabatieh. Nicolas Falaise, Nabatieh, RFI.
En Géorgie, une crise politique qui dure depuis l'annonce par les autorités du report du processus d'intégration à l'Union européenne. L'opposition défile dans les rues de la capitale pour la 3e journée consécutive. Ce soir, les manifestants dénoncent le tournant pro-russe et autoritaire du parti au pouvoir, le rêve géorgien. La légitimité même de ce gouvernement est remise en cause alors que les élections législatives ont été entachées d'irrégularités significatives, selon le Parlement européen. À l'approche de l'élection présidentielle le 14 décembre, le pays est à un tournant entre Bruxelles et Moscou. Écoutez l'analyse de Tornik Gordadz, chercheur à l'Institut Jacques Delors, professeur à Sciences Po.
Les gens ont compris que c'était une bataille ultime. C'est comme en 2013 en Ukraine, lorsque le gouvernement Yanukovych a éteint la lumière au bout du tunnel, en quelque sorte. C'est-à-dire les gens pensaient encore qu'il y avait encore une chance pour que le pays puisse un jour rejoindre l'Union européenne. Désormais, le gouvernement leur dit très clairement que ça va pas être le cas. Donc, on est dans ces moments de vérité, dans ce moment d'affrontement ultime. Si ça ne passe pas maintenant pour la population géorgienne, la Géorgie peut dire adieu pour de nombreuses années à la liberté, à la démocratie. Mais sa société n'a pas dit son dernier mot. Ce que j'entends, c'est que cette vague de protestation va se renforcer dans les jours à venir. Plus la police emploie de la violence, plus les gens se mobilisent. Avant-hier, il y avait 15-20 000 personnes réunies devant le Parlement. Hier soir, ils étaient déjà 60-70 000.
Tornik Gordadz, chercheur à l'Institut Jacques Delors, professeur à Sciences Po. Et ce soir, Washington a condamné, je cite, l'usage excessif de la force dans les manifestations en Géorgie. De son côté, la présidente pro-européenne a déclaré qu'elle ne quitterait pas son poste tant qu'il n'y aura pas de nouvelles législatives. Fin de citation. Le Kosovo accuse la Serbie d'une attaque sur un canal crucial. Une explosion a touché cette infrastructure jugée vitale pour l'accès à l'eau de milliers d'habitants et pour le refroidissement de deux centrales thermiques. Les autorités du Kosovo ont annoncé que plusieurs personnes avaient été arrêtées. Des mesures de sécurité autour d'installations critiques ont été renforcées. De son côté, Belgrade dément. Une tournée dans le Pacifique pour une nouvelle ère démocratique. Voilà comment le président taïwanais présente sa visite de plusieurs pays et son voyage débute aujourd'hui par des escales à Hawaï et Guam, deux territoires américains où se trouvent d'importantes bases militaires américaines. Pour rappel, la Chine considère l'île de Taïwan comme l'une de ses provinces réunifiées avec le reste de son territoire et Pékin voit d'un mauvais œil tout contact officiel entre Taipei et des représentants étrangers. La Chine condamne aussi avec fermeté les voyages officiels des dirigeants taïwanais, Nicolas Roca.
L'avion transportant le président taïwanais a décollé entouré par 4 F-16 des avions de chasse de construction américaine. Une image qui plante le décor de la tournée dans le Pacifique de Lai Ching-de. Sur sa route pour visiter les îles Marshall, Tuvalu et l'archipel des Palau, 3 des 12 pays restants à reconnaître encore Taïwan, ses escales à Hawaï et Guam sont l'occasion d'y rencontrer des vieux amis, selon une source de la présidence à l'AFP. Comprenez des politiques ou des décideurs américains sympathisants de la cause de Taïwan que Pékin cherche à effacer de la scène international. Quelques heures avant le départ de Lai Ching-de, les États-Unis ont approuvé la vente potentielle de pièces détachées pour des F-16 et des systèmes de radar à Taïwan pour un montant total de 320 millions de dollars. Une nouvelle assistance militaire à l'île qui risque de déplaire à Pékin. Vendredi, le ministère de la Défense taïwanais a détecté une trentaine d'avions et 8 navires de guerre chinois dans ses eaux et son espace aérien. Le déploiement le plus important depuis 3 semaines.
Et puis 1 milliard d'euros de dividendes pour les actionnaires de Decathlon, Alexis Bédu.
Pas d'argent pour les négociations salariales, des magasins aux tailles réduites pour minimiser les coûts, des conditions de travail qui se détériorent, disent les syndicats. Cette annonce de versement de dividendes pour l'actionnaire principal, à savoir la famille Mullier, est en totale contradiction avec la situation financière de l'entreprise. C'est ce qu'explique Aurélie Flizard, secrétaire générale adjointe de la Fédération des services à la CFDT.
Notre réaction première, c'est stupéfaction, indignation, incompréhension, puisque les actionnaires vont se verser donc ce 1 milliard d'euros dès lundi. Mais par contre, il n'y a absolument rien qui est donné aux salariés. L'annonce ayant été faite le vendredi de Black Friday, en fait, les salariés ont l'impression d'être bradés pour Black Friday. Dans un contexte dégradé, pour nous, c'est vraiment incompréhensible.
La CFDT demande également aux parlementaires français l'ouverture d'une commission d'enquête, car Decathlon a touché de l'argent public au titre du CICE.
L'impression que ça donne, c'est que ces aides publiques servent à financer des dividendes et les actionnaires, plus que le maintien dans l'emploi et la rémunération des salariés.
La galaxie Mullier, ça n'est pas que Decathlon, c'est aussi le roi Merlin qui habille Noroto, mais surtout Auchan, le distributeur alimentaire dans un état critique. 2400 emplois sont menacés par un plan social d'ampleur annoncé au début du mois.
Alexis Bédu, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.